VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 18 février 2022. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Rien ne va plus entre Paris et Bamako. Le Mali demande à la France de retirer ses soldats sans délai. Le président français répond que tout se fera dans l'ordre. Le Niger s'est dit prêt à accueillir de nouvelles implantations des forces européennes non loin de la frontière avec le Mali. 6 pays africains ont été désignés par l'OMS pour produire leur propre vaccin ARN Messenger. Les uns se multiplient dans l'est de l'Ukraine. Kiev et les séparatistes accusent mutuellement du regain de violence sur fond de crainte d'invasion de la Russie. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a dénoncé une décision unilatérale de la France. La junte au pouvoir à Bamako a demandé notamment vendredi à la France de retirer sans délai ses soldats du Mali au lendemain de l'annonce par Paris et ses partenaires d'un retrait échelonné sur les prochains mois. On l'écoute.
Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 les autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes.
Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. La réaction de Paris ne s'est pas fait attendre. Le président français lui-même, Emmanuel Macron, a rejeté l'exigence de retrait sans délai des soldats français du Mali et il a mis en garde contre toute atteinte à leur sécurité.
Cette décision s'appliquera donc, elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde.
Le président français Emmanuel Macron, le Niger va accueillir de nouvelles implantations des forces spéciales européennes Takuba suite au retrait des forces françaises et européennes du Mali. C'est ce que déclare en tout cas le président nigérien Mohamed Bazoum. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Il y aura de nouvelles implantations au Niger. Notre objectif est que notre frontière avec le Mali soit sécurisée. Nous prévoyons qu'après le départ de Barkhane et Takuba, cette zone soit encore plus infestée et que les groupes terroristes se renforcent, indique le président nigérien. Mohamed Bazoum ajoute que les nouvelles bases ne seront pas loin de Menaka, près de la frontière avec le Niger. Elles accueilleront surtout Takuba car cela a de grands avantages pour nous. Ce sont des forces spéciales avec des capacités répondant à la menace posée par les organisations terroristes, précise M. Bazoum. Le président nigérien affirme que depuis le coup d'État au Mali, tous les postes militaires à la frontière du Niger ont été désertés sous la pression terroriste. Il n'y a plus d'armée malienne à la frontière, une zone littéralement occupée par les terroristes, affirme Mohamed Bazoum. Il accuse aussi la junte malienne de chercher des alibis pour exercer le pouvoir et en jouir, quitte, selon lui, à ce que la situation du Mali se dégrade dans tous les domaines.
Au Sénégal, les artères de la ville de Ziguinchor portant des noms de personnalités françaises, dont une célèbre rue du général de Gaulle, vont être rebaptisées en mémoire des tirailleurs africains et d'autres célébrités locales, a annoncé la mairie de la principale ville de Casamance dans le sud du pays. 6 décennies après notre indépendance, le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale, selon un texte publié hier soir par le conseil municipal de Ziguinchor, dirigé par l'opposant Ousmane Sonko, très critique de la France. Sénégal, toujours la capitale Dakar, un nouveau maire, la personne de Barthélemy Diaz. Lors de son investiture jeudi, Barthélemy Diaz, 47 ans, a proposé d'élever son mentor Khalifa Sall au rang de maire honoraire. Un expert indépendant des Nations Unies a accusé aujourd'hui les autorités centrafricaines et les paramilitaires russes d'entraver systématiquement le travail des enquêteurs Twitter et dénoncer les exactions des alliés russes contre les populations civiles. Cette semaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une nouvelle fois mis en évidence dans un rapport les exactions commises en Centrafrique par les forces nationales et leurs soutiens étrangers, une allusion aux paramilitaires du groupe privé russe Wagner. 5 personnes ont été tuées et plusieurs femmes kidnappées dans une attaque début février contre un camp de réfugiés érythréens dans la région de l'Afar, dans le nord de l'Éthiopie, a annoncé aujourd'hui l'ONU. Le haut commissariat aux réfugiés a rapporté cette attaque datant du 3 février, après avoir recueilli les témoignages de personnes ayant fui le camp de Baralé, proche de la frontière avec la région du Tigré. Selon ces réfugiés, des hommes armés sont entrés dans le camp, ont volé leurs biens et occupé leurs maisons, détaille le HCR en évoquant au moins 5 réfugiés tués et plusieurs femmes kidnappées. Un juge tanzanien a ordonné aujourd'hui la poursuite du procès pour terrorisme du chef principal du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, rejetant une demande de la défense d'abandonner les charges. Freeman Mbowe, 59 ans, est accusé de financement du terrorisme et complot terroriste. Il avait été arrêté le 21 juillet avec d'autres figures de son parti, Chadema, dans la ville de Mwanza, où devait se tenir un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelle. La criminalité s'aggrave encore en Afrique du Sud, l'un des pays les plus violents au monde, avec 74 meurtres et 122 plaintes pour viol par jour au dernier trimestre 2021, a annoncé ce vendredi le gouvernement. Toutes les 20 minutes, une personne est tuée dans le pays. Le nombre de meurtres en hausse de 8,9% par rapport à l'année précédente reste obstinément inquiétant, a reconnu le ministre de la Police, Bekki Sele, lors d'un point de presse à Pretoria. L'OMS a annoncé ce vendredi que 6 pays africains ont été choisis pour héberger leur propre unité de production de vaccins à ARN Messenger, ce qui devrait permettre un meilleur accès du continent aux vaccins pour lutter contre le coronavirus et d'autres maladies. Mohamedou Mfa.
Les pays choisis par l'OMS sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. L'OMS a déclaré qu'elle travaillerait avec ces 6 premiers pays pour élaborer une feuille de route afin qu'ils puissent commencer à produire des vaccins le plus rapidement possible. La formation doit commencer en mars prochain. Les unités de production, destinées d'abord à lutter contre le Covid-19, pourront ensuite produire d'autres vaccins et traitements tels que l'insuline et des médicaments contre le cancer. L'objectif est qu'en 2040, 60% des vaccins produits en Afrique soient administrés en Afrique, s'est félicitée Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Pour sa part, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prévenu que sans un marché en Afrique même, la commercialisation des vaccins produits dans les nouveaux centres va s'effondrer. Seulement 1% des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur le continent de quelque 1,3 milliard d'habitants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les heurts se multiplient dans l'est de l'Ukraine, Kiev et les séparatistes s'accusant mutuellement d'un regain de violence. Les bombardements ont repris à Stanitsa, Luhansa, où une école maternelle a été touchée hier. Les séparatistes ont annoncé l'évacuation de civils vers la Russie, accusant notamment Kiev de préparer une offensive. Nathalie Barge.
Le dirigeant de la République séparatiste de Donetsk, Denis Pushlin, a annoncé le départ massif de la population vers la Russie, en premier lieu les femmes, les enfants et les personnes âgées. Son homologue de Lugansk, Leonid Pasetnik, a annoncé peu après la même décision afin d'éviter des victimes parmi les civils. Américains et Britanniques ont accusé Moscou de vouloir créer un prétexte dans les territoires contrôlés par les séparatistes pour envahir l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dénoncé la mise en œuvre d'un scénario de provocation conçu par les Russes en vue de justifier une attaque de l'Ukraine. Le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a affirmé que les États-Unis voient davantage de forces se rapprocher de la frontière en positionnant des troupes. Le président russe Vladimir Poutine a dit constater la dégradation de la situation après des entretiens à Moscou avec son homologue bélarusse, Alexandre Loukachenko, Il a de nouveau accusé l'Ukraine de refuser de mettre en œuvre le plan de paix issu des accords de Minsk en 2015.
Le président des États-Unis, Joe Biden, va s'exprimer de nouveau sur la crise avec la Russie autour de l'Ukraine ce soir à 21h temps universel. Selon la Maison-Blanche, il fera le point sur les efforts diplomatiques et sur le déploiement de troupes militaires par la Russie à la frontière avec l'Ukraine. La tempête Niamh s'est abattue sur l'Angleterre, l'Irlande et la France avec des rafales atteignant 160 km/h. La tempête a déjà fait 2 morts aux Pays-Bas. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Le Togo a obtenu 12 millions de dollars supplémentaires pour son programme WACA de gestion de ses côtes. Selon Togo First, ce financement additionnel a été décaissé par le guichet IDA de la Banque mondiale à 50% sous forme de crédit et à 50% sous forme de dons. Cette rallonge est destinée aux travaux de protection du littoral togolais. La Banque centrale du Rwanda a annoncé avoir relevé son taux directeur de 50 points de base à 5%. Son comité directeur a justifié sa décision en affirmant que cela allait permettre de contenir l'inflation à un niveau adéquat, tout en continuant à soutenir la reprise économique. Au Sénégal, des organisations de la société civile plaident pour un meilleur accès des femmes au foncier. Il est nécessaire de renforcer la volonté politique pour combler l'écart entre le droit foncier des femmes et la réalité sur le terrain, affirme l'Alliance nationale des femmes et fonciers qui a initié une campagne pour faciliter l'accès des femmes à la terre.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Ce vendredi, les Bayana Bayana d'Afrique du Sud, finalistes de la première édition, ont pris une sérieuse option pour la qualification en battant à domicile les Algériennes 2-0, 3-1 pour le Botswana en déplacement au Zimbabwe. Deux pays qualifiés sur 12 sont connus, le Maroc pays hôte et l'Ouganda parce que le Kenya a déclaré forfait. La compétition est prévue du 2 au 23 juillet 2022. Football toujours, en Ligue africaine des champions, les Soudanais d'Al Hilal ont tenu en échec les Égyptiens d'Al Ahly 0-0. Toujours ce soir, les Sud-Africains d'Amazulu reçoivent les Guinéens du Oroya AC. L'entente sétif d'Algérie joue les Marocains du Raja Casablanca. Athlétisme, le Kenyan Eliud Kipchoge disputera le marathon de Tokyo le 6 mars, affirment ses agents. Le double champion olympique et recordman du monde du marathon, 37 ans, a décroché un deuxième titre olympique sur la distance mythique l'été dernier à Sapporo lors des Jeux de Tokyo. Il retournera donc dans un peu plus de 2 semaines au Japon pour disputer pour la première fois le marathon de Tokyo. Tokyo fait partie des 6 marathons majeurs avec New York, Berlin, Chicago, Londres et Boston. Kipchoge a annoncé vouloir remporter les 6 dans sa carrière. Il a déjà gagné Londres, Chicago et Berlin. Athlétisme toujours, la sprinteuse nigériane Blessine Okabare a été suspendue 10 ans pour usage de substances prohibées et non-coopération dans l'enquête menée par les autorités antidopage, annonce l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Okabare, 33 ans, qui faisait partie des outsiders du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo, avait été suspendue provisoirement et exclue des JO juste avant les demi-finales le 31 juillet 2021. Elle était alors accusée de dopage à l'hormone de croissance suite à un contrôle réalisé hors compétition le 19 juillet. Début octobre 2021, elle a été de nouveau épinglée pour un contrôle positif à l'EPO. Basketball avec des nouvelles de la NBA, plus que jamais candidat au titre de MVP, le Camerounais Joel Embiid, 42 points, 14 rebonds et 5 passes décisives, a remporté le duel de costaud l'opposant au grec d'origine nigériane, Gianni Antetokounmpo. Philadelphie s'est imposée à Milwaukee 123-120. Le Greek Freak, entendez monstre grec, a répondu avec 32 points, 11 rebonds et 9 passes décisives. De son côté, Miami a gagné 111-107. Après 2 prolongations à Charlotte, les Nets de Brooklyn se sont inclinés sur leur parquet face aux Wizards 117-103. À l'ouest, Luka Doncic a passé 49 points aux Pelicans, battu par les Mavericks 125-118.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. 24 heures après la décision des autorités françaises de retirer du sol malien les forces Barkhane et Takuba, le gouvernement malien vient d'ordonner un retrait sans délai de ces mêmes forces. Que pensent les citoyens maliens de cette décision des autorités de Bamako? Le reportage de Mohamed Danyoko, notre correspondant dans la capitale malienne.
Pour moi, cette décision du gouvernement est vraiment à saluer. Nous disons un grand merci à nos autorités pour cette décision prise. C'est ce que la population veut, hein, ce genre de décision. Et qu'ils comprennent également qu'ils ont le soutien du peuple malien. Nous disons bravo à nos autorités.
La demande des autorités maliennes de la transition aux autorités françaises de retirer sans délai l'opération Barkhane et Takuba du territoire malien. Je crois que c'est vraiment, nous sommes toujours vraiment dans l'escalade. Sinon, je ne crois pas qu'on doit tirer sur une ambulance ou sur un corbillard. Déjà, les Français ont annoncé leur retrait. Donc je crois que c'est vraiment le gouvernement d'attendre, parce qu'on l'a pas, on les a pas chassés à ce que je sache. Mais maintenant, le gouvernement français s'y retire et le gouvernement malien donne du délai. Je crois vraiment que nous sommes dans l'escalade.
À mon avis, le départ de Barkhane et de Takuba était prévisible. La situation était déjà intenable entre les deux pays. Et la France voulait se donner environ 6 mois pour faire le retrait. Et aujourd'hui, vous voyez que les autorités maliennes leur demandent de faire le retrait sans délai. Donc ça veut dire que voilà, la situation est vraiment assez difficile. Et la France est obligée de faire partir ses troupes. Et le Mali est maintenant de voir comment il peut combler les vides qui seront laissés par le départ des troupes françaises.
Les récents événements entre la France et le Mali, c'est comme la réponse du berger à la bergère. Les deux parties estiment que le verre est plein. Le Mali ne supporte plus l'ingérence française. Et la France pense que le Mali se prend de trop. Donc à partir de ce moment, je crois que les deux parties doivent s'assumer. Le Mali doit s'assumer du fait des différents actes désormais pris. Et la France doit tirer les leçons de son engagement au Mali. Il ne sert à rien pour la France de se retirer à quelques enclavures du Mali, tout près du Niger, et être aux aguets permanemment. Et le Mali doit en tout cas veiller sur sa sécurité comme de l'air sous le feu.
La Russie a discrètement reconstruit ses liens avec l'Afrique en renforçant la coopération économique et militaire. Mais Moscou a suscité également des inquiétudes de la part des Occidentaux quant à ses stratégies, ses objectifs en Afrique, comme le rapporte la VOA. Le récit est d'Éric Manirakiza.
Des drapeaux russes ont été brandis dans la capitale du Burkina Faso après le coup d'état militaire de janvier. Une statue inaugurée en République centrafricaine l'automne dernier montre des soldats locaux soutenus par des combattants russes. Ce sont les symboles les plus évidents de la présence russe sur le continent. L'Afrique est une priorité de la politique étrangère, avait déclaré en 2019 le président Vladimir Poutine lors du premier sommet Russie-Afrique.
Il a été convenu lors du sommet de créer un nouveau mécanisme de dialogue sous la forme d'un partenariat Russie-Afrique.
Le premier sommet qui s'est tenu à Sochi, une station balnéaire de la mer Noire, a donné lieu à des accords diplomatiques et à des transactions de plusieurs milliards de dollars dans les domaines de l'armement, de l'agriculture et de l'énergie, entre autres, a indiqué l'organisateur. Horse Congress Foundation. Un deuxième sommet est prévu à Saint-Pétersbourg en octobre. Maxime Matsevitch, directeur des études russes, Seton Hall University.
La Russie offre, comme l'Union soviétique auparavant, une vision alternative pour les nations africaines. Et s'il y a un point commun entre ce que font les Russes aujourd'hui et ce que faisaient les soviétiques auparavant, c'est cette critique anti-occidentale commune.
La propagation de l'extrémisme islamiste militant et d'autres violences en Afrique a créé davantage d'ouverture pour les militaires russes au Mali. Il en va de même pour le retrait des troupes françaises. Selon les observateurs occidentaux, les entrepreneurs militaires privés contribuent également à faire avancer les programmes de Moscou en Afrique. Il s'agit notamment des combattants dans l'ombre du groupe Wagner, qui serait contrôlé par un proche de Poutine, Yevgeny Prigozhin. Monsieur Poutine nie tout lien avec ce groupe.
Ce n'est pas l'État, c'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses.
Ce n'est pas le cas, affirme Joseph Steger, qui dirige les recherches de l'Africa Center for Strategic Studies, qui fait partie du département de la défense des États-Unis.
Chaque endroit où nous avons vu Wagner déployé dans le monde et en Afrique, que ce soit en Libye, au Soudan, au Mozambique, en République centrafricaine, il a été une force déstabilisante.
La junte au pouvoir a fait appel à des formateurs militaires russes et, selon les autorités américaines et françaises, à des mercenaires du groupe Wagner. Certains Maliens les ont accueillis en agitant des drapeaux russes, reflétant non seulement les liens historiques avec l'ex-URSS, mais aussi l'impatience du public face à l'insécurité persistante, explique Niagale Bagayoko, politologue basé à Paris, qui préside le réseau africain du secteur de la sécurité.
En 2013, l'ensemble de la population malienne était enthousiaste à l'arrivée des Français. Et vous pouvez voir aujourd'hui qu'ils rejettent leur présence. Pour être honnête, je ne serais pas très surprise si, dans 2 ans environ, la même chose se produise avec la présence russe.
La Russie n'est pas le seul gouvernement étranger à tenter d'étendre son influence en Afrique. La Maison-Blanche prévoit un deuxième sommet États-Unis-Afrique dans le courant de l'année et l'Union européenne, qui a terminé aujourd'hui un sommet avec l'Union africaine, a annoncé un nouvel investissement de 172 millions de dollars dans les infrastructures pour contrer l'initiative Belt and Road de la Chine, la Chine étant le premier partenaire économique de l'Afrique.
Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel, confrontée à une flambée des prix et la forte demande régionale. Le représentant du PAM au Burkina Faso prévient que la situation est critique, avec des millions de personnes qui vont être confrontées à la faim dans les mois à venir. Reportage d'Henri Wilkins à Ouagadougou. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a fait réagir la toile. Elle prétend montrer des groupes djihadis se déplaçant librement dans de vastes zones de la campagne burkinabé, attaquant à la fois les civils et les forces de sécurité. Le conflit a touché des millions de personnes. L'ancien éleveur, Saïdou Sawadogo, forcé de fuir à Ouagadougou, a perdu tout son bétail.
Oui, mes animaux ont été volés. Les terroristes sont arrivés vers 3 ou 4 heures du matin. Ils sont venus en grand nombre ce jour-là. Ils ont pris environ 1 millier de moutons et ils sont partis. Quelques jours plus tard, ils sont revenus au marché et ont pris le téléphone portable de tout le monde. Et c'est alors que j'ai décidé de fuir.
C'est un mélange de facteurs qui a fait monter en flèche le prix des denrées alimentaires, affirme le Programme alimentaire mondial, qui précise que 28 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le vol de bétail n'est qu'un petit facteur. Selon le PAM, les principales raisons de la hausse des prix au Burkina Faso comprennent aussi la forte demande des pays voisins.
Il y a une forte demande dans la région, donc c'est un aspect en termes de dimension de marché. Le second, qui est le conflit, a bien sûr un impact sur la façon dont vous pouvez continuer à récolter. Comment pouvez-vous continuer à vous assurer que vos marchés sont opérationnels en ce qui concerne le Burkina Faso? Le dernier aspect est également l'impact économique du COVID-19.
Le PAM indique également qu'au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la faim pourrait augmenter de 50% dans les mois à venir, passant de 5,5 millions à plus de 8 millions de personnes dans une grave crise d'insécurité alimentaire. Les plus de 2,5 millions de personnes déplacées par le conflit au Sahel, comme Soumaïla Sawadogo, sont particulièrement vulnérables.
Les gens nous ont accueillis, nous ont hébergés et nous remercions Dieu. Le seul problème que nous avons est celui de l'eau et de la nourriture. Nous n'avons que l'aide de l'ONU. Ils nous ont aidés avec des maisons et de la nourriture, du riz, de l'huile, des haricots et des condiments.
Dans le même temps, le PAM affirme qu'il sera bientôt obligé de réduire les rations des personnes déplacées s'il ne reçoit pas plus de financement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, une partie du marché de PK5 a été ravagée la nuit dernière par un violent incendie. Plus d'une centaine de magasins sont partis en fumée. L'origine exacte du feu n'est pas encore connue, mais les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. À Bangui, retrouvons pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Jusqu'en fin d'après-midi ce vendredi, la fumée s'échappait encore des débris des magasins calcinés par ce gigantesque incendie déclenché aux environs de 21h30 hier soir. Les dégâts sont impressionnants, des débris de vêtements, de chaussures, d'objets en plastique, des murs effondrés s'étendent sur plus d'une centaine de mètres. Ibrahim a perdu ses marchandises estimées à plus de 15 millions de francs CFA.
En fait, toutes les marchandises qui est à l'intérieur du magasin, les habits des enfants, des hommes et des femmes. Le mien, 15 millions.
Des centaines de personnes sont massées sur l'avenue Koudoukou pour observer les dégâts. L'origine exacte du feu n'est pas encore connue, mais certains commerçants soupçonnent un court-circuit électrique.
Je vois que cet élément est courant parce qu'il n'y a pas de survie. Il n'y a que cet élément, mais le cas, parce qu'il ne prend pas le travail.
Je viens de perdre ma boutique aussi. Je vends les habits pour les enfants, femmes et pour les hommes aussi.
Bon, les magasins, ça va être 100 et quelqu'un. Bon, les magasins, c'est l'hiver, la crème, la lait, tout ça. Voilà, les magasins, ça arrive comme ça, mais depuis là, depuis l'heure de 21h, le courant arrive que brusquement. Et en tout cas, on est sûr que la file a brûlé tout ça.
Et on veut seulement l'aide du gouvernement pour nous aider.
Malgré l'intervention des habitants du quartier PK5, des sapeurs-pompiers et de la MINUSCA, les flammes ont résisté jusqu'au matin. Le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, se sont rendus sur place. Le chef du gouvernement, Félix Moulois.
Il faut d'abord faire une évaluation, mais au moins, ça va attirer l'attention du gouvernement et on réfléchira comment ce qu'on pourra faire pour apporter donc un appui à cette population qui se bat, qui fait preuve de résilience, qui malheureusement a connu donc ce drame. Il faudrait aussi tirer les enseignements pour que ce genre d'événement malheureux ne se reproduise pas.
Pour les autorités locales, il est important d'identifier les victimes avant toute solution. Ibrahim Algoni, député de la deuxième circonscription du 3e arrondissement.
Pour le moment, nous avons déjà convoqué une réunion avec les responsables, les délégués du marché et certains leaders de la deuxième circonscription. Et là, maintenant, premièrement, nous voulons d'abord identifier les victimes, avoir le nombre exact des boutiques qui sont parties en feu. Et par après, le premier acte qu'on doit faire aussi, c'est de dégager d'abord le lieu et on va voir le reste après.
Ce n'est pas la première fois qu'un incendie ravage une partie du marché de PK5. En 2021, un court-circuit a provoqué un incendie qui a fait perdre plusieurs centaines de millions de francs CFA aux commerçants. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Voilà, le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph, technique Zineb Abdelrahman. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.